Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, sous la neige. J'espère que vous n'êtes pas ensevelis quelque part et que vous pouvez être à l'écoute. Marianne Paquette pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Si vous vous promenez dans les épiceries un petit peu plus spécialisées, mais quand même de plus en plus dans des marchés plus réguliers, vous avez peut-être découvert des produits, des substituts de produits laitiers. Je parle de fromage, par exemple, ou de lait végétaux, des laits à base de riz, du lait d'amande également. Peut-être ça vient du fait qu'il y a plus des deux tiers de la population mondiale qui serait intolérant au lactose. C'est énorme, ça. Et c'est ce qui en fait l'intolérance alimentaire la plus répandue à travers le monde. Et même si ça semble assez récurrent, adapter son mode de vie, également changer les habitudes de vie de notre famille, de nos enfants, du conjoint, de la conjointe, ben c'est pas nécessairement une chose qui est évidente. Il y a une nutritionniste qui s'appelle Marie-France Lalancette qui s'est intéressée au sujet parce qu'elle a deux filles qui sont allergiques. Là, je parle pas d'intolérance, là, mais bien d'allergie au lait. Et elle a eu envie de se pencher là-dessus. Elle a sorti l'an passé un livre qui s'appelle Sans lactose, 21 jours de menu, c'est publié chez Modus Vivendi. Et elle sera là, Marie-France Lalancette, en deuxième partie de l'émission pour nous donner des petits trucs. Et puis, vous dire que ben, ça a débuté hier, hein, du 15 au 19 février. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Et c'est au Québec un enjeu dont on n'évalue pas toujours l'importance. Et pourtant, c'est important de le rappeler, même si ce n'est pas nécessairement des chiffres qui sont réjouissants. Là, il y a à peu près 25 % des jeunes qui sont inscrits au secondaire qui vont ressortir au bout de ces années-là sans diplôme. Mais aujourd'hui, au lieu de s'intéresser aux aspects un petit peu plus négatifs là, qui mènent au décrochage scolaire, j'ai eu envie de mettre l'accent sur ce qui fait qu'on reste accroché donc et qu'on reste à l'école. Donc, tous les aspects plus positifs là, qui nous font aimer l'école. Et j'en parle avec Agathe Tupulaï, l'orthophoniste et directrice générale de la clinique ProAction. Agathe, tu es là, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là malgré la tempête.
Ça fait plaisir.
Agathe, l'une des façons de rester accrochée ou du moins d'intéresser nos enfants à l'école, c'est le goût de la lecture, d'arriver à leur transmettre ça.
Tout à fait. Et dès un très jeune âge, là, même quand notre enfant a quelques mois de vie, c'est jamais trop tôt pour faire la lecture à son enfant. Puis ça a été démontré par plusieurs études que d'exposer notre enfant très tôt à la lecture, ça va faciliter son cheminement scolaire par la suite. Et puis même éventuellement prévenir des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture.
Est-ce que l'on sait si la lecture, et ça en bas âge, prépare l'enfant à son parcours scolaire?
Tout à fait. Ça le prépare en facilitant d'abord l'acquisition du langage. Ça développe le vocabulaire également. Ça bâtit la capacité d'écoute. Ça développe l'imagination, la créativité. Et puis, il y a certaines compétences clés, des compétences préscolaires qui sont des bons prédicteurs de la réussite plus tard au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Par exemple, un enfant qui connaît déjà le nom des lettres avant l'entrée à l'école, par exemple, connaître une quinzaine de lettres en majuscules et en minuscules, les reconnaître à l'écrit, c'est un bon protecteur, si on veut, contre d'éventuelles difficultés de langage écrit au niveau de la lecture et de l'écriture.
Et bien sûr, si on lit bien, on lit avec plaisir, l'écriture est facilitée.
Exactement. L'intérêt face à l'écrit, je dirais même que c'est la première graine à semer. Puis comment on fait pour donner le goût de la lecture à notre enfant très tôt? Je crois que c'est d'abord en servant soi-même de modèle à notre enfant. Si on montre à notre enfant que la lecture, c'est une activité qui est plaisante, qui est utile, qui est agréable, en lisant nous-mêmes en tant qu'adultes, en lisant avec notre enfant. Et puis c'est pas une action à l'occasion. On parle vraiment d'actions répétées qui font partie de la routine quotidienne. Eh bien, notre enfant, ça va lui donner donner le goût de lire et il va être amené à s'intéresser aux livres. Donc, c'est important qu'il puisse les toucher, les manipuler, qu'il puisse les explorer, y avoir accès à la maison. Puis, il y a une diversité de textes aussi, de livres.
Oui. Et même d'inclure la lecture dans les petites tâches quotidiennes, lire une recette, par exemple, ou retrouver des lettres de son nom sur les écriteaux là, du magasin. Ça peut être amusant pour lui.
Ça, ce sont des excellents exemples, en fait, parce que c'est pas toujours avec des livres, c'est aussi de profiter de toutes les occasions de la vie quotidienne. Quand on va au supermarché, justement, ou quand on regarde des circulaires, on va au restaurant, on regarde le menu ensemble, on montre qu'est-ce qu'on va prendre, on pointe les lettres, on les nomme ensemble. Et puis l'enfant va s'intéresser aussi spontanément, très souvent, aux lettres qui composent son prénom.
Ouais.
Donc, c'est pas rare qu'un enfant, déjà, avant même d'entrer à la maternelle, sache reconnaître les lettres de son nom.
Agathe, j'ai été étonnée de lire qu'environ le tiers des jeunes de la quatrième année du primaire ne rencontrent pas les exigences en lecture au niveau scolaire. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
En fait, c'est qu'il y a des élèves qui ont de la difficulté à lire, à écrire, et ce n'est pas nécessairement décoder des symboles. Quelqu'un peut avoir une lecture qui est assez fluide, mais il va avoir du mal, par exemple, à lire entre les lignes, à comprendre ce qu'il lit, à faire les inférences.
Ah,
et quand on arrive au deuxième cycle du primaire, troisième, quatrième année, les textes auxquels sont exposés les élèves vont avoir beaucoup plus de sous-entendus, si on veut. Donc, les réponses ne vont pas nécessairement apparaître telles quelles dans les textes. L'enfant va devoir faire des inférences sur le pourquoi des actions des personnages, par exemple, déduire une émotion ou une fin possible à une histoire. Et ça, c'est des habiletés au niveau du langage écrit qui sont plus complexes, mais qu'on peut développer avant même de lire.
Ah oui. Bien, d'ailleurs, je vais revenir à ça parce que vous disiez, dès les premiers mois de notre enfant, on peut tenter de l'intéresser à la lecture. Avant un an, c'est possible de le faire. Et je tiens à le répéter parce que je pense que pour certains parents, on se dit, ben non, j'irai pas tout de suite vers ça. Vous encouragez à le faire, Agathe.
Oui, parce qu'il faut pas non plus percevoir ça comme des tâches académiques avant le temps. Il y a des moyens de rendre ça plaisant, de rendre ça agréable. Par exemple, quand on va lire une histoire avec son enfant, on va créer une ambiance lecture, une ambiance qui est agréable. Au départ, l'enfant va associer le temps lecture à une période agréable avec son parent qui lui permet d'avoir toute son attention, un moment privilégié de détente, par exemple, avant le dodo. Et c'est vraiment toute cette ambiance-là qui va aussi procurer du plaisir à l'enfant et non seulement le livre.
Par la suite, on fait comment pour savoir si notre enfant, selon son âge, a les acquis de lecture ou de compréhension, c'est-à-dire vers 2 ans, qu'est-ce qu'il pourrait être capable de faire, par exemple?
Oui. Par exemple, un enfant en bas âge qui a, disons, autour de l'âge d'un an, qui a du mal à exprimer le son que fait un animal nommer un animal dans un livre quand il voit l'image sur une illustration, ça pourrait prédire d'éventuelles difficultés au niveau de la lecture plus tard parce que c'est possible qu'il ait du mal à traduire par un symbole graphique un son qu'il entend à l'oral ou à nommer le bruit que fait une lettre quand il la voit à l'écrit.
Mm-hmm.
Ou un enfant vers l'âge de 3 ans qui va avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage des couleurs, ça pourrait laisser penser qu'il aurait des difficultés d'accès lexical. Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la difficulté à accéder aux mots qu'on veut au moment voulu dans une situation donnée. Et des difficultés d'accès lexical, comment ça se répercute au niveau de la lecture et de l'écriture? Bien, en fait, ça va diminuer la vitesse de la lecture et puis la précision de la lecture aussi. Mmh. Donc, ça va jouer aussi sur la compréhension de texte.
Et tout juste avant que notre enfant entre en première année, il devrait être rendu où dans ses connaissances?
Donc, entre la maternelle et la première année, déjà à la fin de la maternelle, normalement, l'enfant connaît entre 15 et 17 lettres majuscules, minuscules, donc pas nécessairement toutes les lettres, mais il connaît d'abord le nom des lettres avant de savoir le bruit que font les lettres. Donc, il y a déjà des habiletés d'éveil à l'écrit qui sont présentes. On essaie autant que possible aussi que notre enfant ait déjà un intérêt face à l'écrit.
Ouais.
Et puis aussi une conscience de l'écrit, c'est-à-dire qu'il comprend le rôle des livres. D'abord, les livres ont une fonction qui est plutôt affective en bas âge, mais par la suite, ça va avoir plutôt une fonction qui va être
utilitaire,
utilitaire pour apprendre, pour s'informer, pour se divertir.
Ouais. bon, sans être alarmiste, là, on fait quoi si on a l'impression que notre enfant est peut-être pas rendu là? Est-ce qu'on attend avant son passage au parcours scolaire, avant de consulter, ou on peut le faire avant?
On peut le faire avant, avant même l'entrée à l'école. Je crois que la chose à faire, c'est d'aller vérifier auprès d'un orthophoniste, de procéder à une évaluation au niveau du langage, vérifier s'il y a des difficultés particulières, parce que l'orthophoniste peut intervenir très tôt dans le développement pour stimuler le langage et puis préparer l'enfant avant l'entrée à l'école pour qu'il soit prêt et pour qu'il ait vraiment consolidé son langage autant que possible avant l'entrée à l'école à la maternelle.
Et on le sait, ces premiers mois, cette première année, ces premières années, là, c'est extrêmement important dans son amour de l'école et d'avoir envie d'y être et d'y rester.
Exactement. Souvent, les enfants qui commencent à lire là, vers la première année, ils vont avoir une image positive d'eux-mêmes en tant que lecteurs, peu importe qu'ils aient des difficultés ou non au niveau de la lecture. C'est plus vers la deuxième, la troisième année où là, l'enfant qui a des difficultés, commence à en prendre conscience et puis son image de lui-même va en prendre un coup. Et une fois qu'elle est bâtie, cette image de soi en tant que lecteur, elle est difficile à modifier.
Évidemment, lorsque l'on a des difficultés, on apprécie peut-être moins la lecture aussi.
Exactement. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Quand on a des difficultés au niveau de la lecture, on va fuir les situations où on doit lire. Et puis, on peut même essayer de faire passer ça pour une autre difficulté. Donc, l'enfant pourrait avoir des comportements dérangeants en classe, mais à la base, c'est pour pas qu'on pense qu'il n'est pas intelligent. Il préfère passer pour quelqu'un qui perturbe l'ambiance de classe.
Oui, parce qu'Agathe, les difficultés de lecture ne sont pas nécessairement toujours liées à un trouble d'apprentissage.
Pas nécessairement. En fait, c'est parfois parce qu'il n'y a pas nécessairement eu la stimulation nécessaire. Et puis aussi, bon, quand on apprend à lire, le principe alphabétique est essentiel. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est être capable de comprendre qu'à chaque lettre ou à chaque groupe de lettres qu'on appelle des graphèmes, il y a un son de la langue qui correspond. Donc, par exemple, pour les lettres CH, on sait que ça produit le son CH. Et parfois, ce principe-là est mis de côté un peu dans l'enseignement, de sorte qu'on privilégie ce qu'on appelle les mots étiquettes. On veut amener l'enfant à reconnaître des mots de façon globale. Ça, c'est pas suffisant parce que chaque fois que l'enfant va être exposé à des nouveaux mots, donc il va avoir de la difficulté à décoder ce qu'il voit. Mm-hmm. Donc, c'est important de s'y prendre la bonne façon aussi quand on enseigne la lecture. Donc, vraiment d'apprendre à décoder les graphèmes pour comprendre quel graphème donne quel son de la langue.
Mm-hmm. Est-ce que les garçons et les filles sont égaux devant la lecture?
Selon les études, pas tout à fait. En fait, on remarque qu'il y a un avantage du côté des filles. Puis les différences qu'on note au niveau des résultats scolaires entre les filles et les garçons, on croit que ça réside beaucoup dans l'avantage en lecture qu'on observe chez les filles. Par exemple, les filles vont être portées à lire plus souvent et vont aussi démontrer une attitude plus positive de façon générale vis-à-vis des livres en comparaison aux garçons.
Mm-hmm.
Donc ça joue beaucoup sur les résultats scolaires parce que la majorité des apprentissages scolaires passent par la lecture. C'est pas seulement en français, c'est en mathématiques aussi, en histoire, donc dans la presque quasi-totalité des matières scolaires. Et puis un enfant qui a du plaisir à lire, qui aime lire, il a beaucoup plus de chances d'aimer aller à l'école et d'aimer apprendre, etc. Apprentissages scolaires se fassent bien.
Mm-hmm. En ce sens, j'imagine qu'il ne faut pas trop encadrer les choix de lecture de notre enfant, c'est-à-dire que s'il a envie de lire de la BD, on a l'impression que c'est peut-être moins pertinent, mais si lui, il aime ça, on encourage le style littéraire qu'il apprécie.
C'est un bon point, exactement. Et puis, il y a eu un article récemment qui a été publié à ce sujet-là, comme quoi d'intégrer les bandes dessinées dans les écoles, ça pouvait amener les garçons particulièrement à développer une préférence pour les livres, à développer leur goût de la lecture. Et puis, c'est important, effectivement, de donner plusieurs choix à l'enfant, de ne pas nécessairement imposer un type de livre ou un auteur en particulier, de favoriser les choix, les échanges aussi en classe ou avant l'entrée à l'école, parler à l'enfant de différents types d'auteurs, de différentes collections, de différents types de livres, l'exposer à différents types d'écrits. Ça va vraiment être intéressant, puis lui donner une panoplie d'options pour découvrir quels sont ses styles à lui de lecture.
Maintenant, des petits trucs. On en a parlé tantôt, là, par exemple, trouver les lettres de son prénom dans des livres ou dans des écrits là, que l'on verrait autour de nous, mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'inclure le plaisir de la lecture, le plaisir des mots dans le quotidien de notre enfant?
Oui. Par exemple, quand notre enfant est à l'âge préscolaire, quand on lui lit un livre, on peut pas nécessairement toujours lire chacune des pages de façon traditionnelle, si on veut. On peut demander à l'enfant de lui-même nous raconter l'histoire, surtout si on lui a déjà lu auparavant, et puis intégrer, par exemple, des marionnettes, des peluches, créer un auditoire lorsque l'enfant va raconter l'histoire qu'il connaît. On peut également changer la voix des personnages, rendre ça ludique, se déguiser, mettre des costumes. Et puis, on peut faire des bricolages, nommer les différentes lettres qu'on découpe. C'est vraiment infini. Je crois qu'il faut laisser beaucoup de place à la créativité. Et puis, partir des intérêts de l'enfant, donc par exemple, s'il s'intéresse aux automobiles ou à tel type de jouets, on va partir de ces intérêts-là pour créer des activités de lecture. Ça peut être même aussi banal que lors du déjeuner, on va regarder la boîte de céréales mm-hmm. et puis demander à l'enfant, ben je crois que tu peux trouver les lettres de ton nom sur la boîte, est-ce que tu les vois? Ou disons qu'on a une soupe à l'alphabet ou des céréales avec des lettres, on peut faire une blague et puis, ah, mange pas mon nom, par exemple, ou trouve pas les lettres de mon nom. Et tout à coup, il va avoir le goût de les trouver. Puis,
oui, oui, oui. Donc, toujours le volet ludique, je l'entends bien, ça.
Tout à fait.
Bon, je lisais également dans vos documents, vos différents documents, Agathe, pouvoir trouver des mots qui riment. Ça peut être un acquis important chez notre enfant.
Tout à fait. Être capable de dire si deux mots riment ou compter le nombre de syllabes dans un mot. Par exemple, souris, ami, ce sont deux mots qui riment, composés de deux syllabes. Être capable de nommer plusieurs mots qui commencent par un son donné. Par exemple, nomme-moi des mots qui commencent par le son « a ». Donc, ce sont des tâches qui semblent banales, mais en fait, ça développe la conscience phonologique. Et la conscience phonologique, c'est l'habileté à jouer avec les sons de la langue, à jouer avec les syllabes, les unités qui sont plus petites à l'intérieur du mot. Et ça, c'est un des meilleurs prédicteurs aussi pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture plus tard. Un enfant qui a développé une bonne conscience phonologique va souvent avoir plus de facilité à lire et à écrire.
Maintenant, si l'enseignant de notre enfant note une difficulté de lecture, comment on peut collaborer avec l'enseignant?
Bien, c'est très important qu'il y ait une communication régulière entre les parents et l'enseignant. Donc, on peut ne pas hésiter, en fait, à poser des questions. Qu'est-ce qui est difficile pour l'enfant? Est-ce que c'est de décoder les symboles? Est-ce que c'est de reconnaître certaines lettres? Est-ce qu'il y a des sons en particulier sur lesquels on pourrait mettre l'accent à la maison quand on va lire des histoires avec notre enfant? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la compréhension de texte qu'il y a des défis pour notre enfant?
Okay.
Parce que ce sont des difficultés qui sont très différentes. Donc, je dirais, c'est de comprendre avec l'enseignant, lui demander où sont les difficultés et vraiment travailler ensemble pour vraiment réinvestir à la maison ce qui est travaillé en classe. On peut aussi demander à l'enseignant sur quel thème on lit présentement en classe, de façon à aller chercher d'autres textes à la maison, sur Internet, par exemple, ou dans d'autres ressources, où on va permettre à l'enfant de consolider ses apprentissages sur le thème qui est vu en classe.
Oui, c'est très intéressant ce que vous amenez parce que la lecture, ça a plusieurs volets. Ça se peut que notre enfant ait de la difficulté, bon, pour la compréhension, mais pas pour autre chose. De poser des questions, de collaborer avec l'enseignant, c'est précieux pour tout le monde, pour la famille, pour l'enfant.
Tout à fait.
De très bons trucs, Agathe. Bon, maintenant, en terminant, c'est la semaine de la persévérance scolaire.
Oui.
De là, votre venue ici, Agathe. C'est quoi les enjeux de cette semaine-là?
En fait, c'est très important parce que le décrochage scolaire, ça a des impacts pour tout le monde. Et c'est important pour tout le monde. On ne parle pas seulement des élèves qui sont en classe, on parle aussi des élèves qui ne sont pas encore à l'école, donc des enfants à l'âge préscolaire. On s'adresse aussi aux parents des enfants parce que je crois que ce n'est pas seulement... Oui, les élèves doivent persévérer, c'est certain, mais je crois que c'est aussi les parents des élèves, les adultes significatifs qui les accompagnent, qui doivent persévérer. Donc, c'est aussi d'encourager les parents à rester auprès de leurs jeunes, les accompagner dans leur parcours scolaire, d'être présent. Et puis parfois, on peut se sentir démuni comme parent, surtout quand notre enfant a des problèmes d'apprentissage, des échecs scolaires. Et puis c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il y a une panoplie de ressources qui existent pour aider les parents, aider les enfants. Et puis vraiment les encourager aussi à demeurer à l'affût de tout ce qui se passe à l'école. Et c'est pas parce que l'enfant ne parle pas de ce qui se passe à l'école qu'il n'y a pas de problème nécessairement. Donc c'est vraiment rester aux aguets, communiquer avec l'équipe équipes, les différents intervenants en milieu scolaire, et puis se préoccuper de tout ce qui se passe dans le milieu scolaire pour notre enfant.
S'intéresser. Mais je me mets dans la peau, Agathe, d'un parent qui aurait lui-même vécu des troubles d'apprentissage, des difficultés à l'école et qui appréhende un petit peu ce passage-là à l'école de son enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer s'ils se sentent un petit peu inquiets pour ce parcours-là?
C'est une excellente question. Moi, je dirais que ce serait de discuter avec l'intervenant auquel ils ont accès. Si l'enfant est déjà à l'école, ce serait de discuter avec l'enseignant, avec les autres professionnels, par exemple l'orthopédagogue, le directeur de l'école, et puis de faire part de cette inquiétude-là, de ne pas avoir peur de la nommer.
Ouais.
Parce que c'est sûr que quand nous-mêmes, on a vécu des difficultés, on craint que notre enfant vive les mêmes difficultés également. Et puis, il y a aussi différentes ressources extérieures. Quand on ne se sent pas outillé, par exemple, pour aider notre enfant à l'heure des devoirs et des leçons, on peut penser à des ressources comme Allo Prof. Si notre enfant est un peu plus vieux et puis qu'il se questionne par rapport à son choix de carrière pour plus tard, puis on veut l'amener à connaître une profession qui va ultimement le motiver à poursuivre à l'école, il y a aussi une autre ressource très intéressante qui s'appelle Academos et qui est un site web où les élèves peuvent avoir accès à plusieurs mentors dans différentes professions, où ils peuvent poser des questions sur un métier en particulier, sur à quoi ça ressemble une journée typique, par exemple, ou quel type d'études ça me prend pour arriver à tel domaine. Et puis ça, il ne faut pas nécessairement attendre le cégep pour ça. Déjà au secondaire, on peut commencer à intéresser les gens à une profession.
Excellente ressource, Agathe Tupulan. On les glissera sur le site du Canal M. Même chose pour persévérancescolaire.com et pour votre clinique proaction.com. Agathe Tupulan, orthophoniste, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Et merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Du mal à joindre la nutritionniste Marie-France Lalancette. On vous propose, Jean-Sébastien et moi, toujours un livre publié chez Modus Vivendi, L'alimentation des bébés 21 jours de menu, avec la nutritionniste Stéphanie Côté. Stéphanie Côté, bonjour!
Bonjour!
Bonne année, Stéphanie!
Pareillement!
Vous commencez en grand 2016, oh, avec la sortie d'un nouveau livre!
Ah oui, on y est avec ça! On lance un livre tout de suite en début d'année!
Donc, bébé 21 jours de menu chez Groupe Modus. Stéphanie, je commence à vous connaître et je pense que ce qui vous distingue, ou en tout cas, c'est assez présent dans toutes les publications, dans toutes vos communications, c'est, oui, bien manger, mais le plaisir de manger. Et ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est que ça commence dès les premiers mois de vie, ça.
Oh oui, absolument. Quand on inculque des habitudes alimentaires à notre enfant dès son plus jeune âge, c'est souvent les habitudes qu'il va garder tout au long de sa vie. Donc, aussi bien de partir du bon pied. Et ça, bien, comme vous l'avez dit, ça inclut le plaisir de manger. Si, dès l'introduction des premiers aliments, on montre à l'enfant que c'est bon manger, que c'est plein de couleurs, que c'est plein de textures, que c'est plein de saveurs, que nous-mêmes, on prend plaisir à manger aussi, mais l'enfant grandit en ayant cet aspect-là de l'alimentation en tête et souvent, mais ça en fait un bon mangeur.
Ouais, et j'ai été pas tant surprise, mais j'ai aimé me faire rappeler que l'introduction aux aliments complémentaires, c'est aussi une façon d'apprendre foule de choses, dans le sens, ben, les petits pois, c'est une façon de développer une motricité fine, d'aller les attraper, ou encore de jouer avec les aliments, ça nous apprend plein de choses sur la vie. C'est bon de rappeler ça, Stéphanie.
Oui, parce que manger, c'est pas juste se nourrir, c'est pas juste nourrir notre enfant puis donner à son corps tout ce dont il a besoin pour grandir en santé. Ça va au-delà de ça, parce que manger, c'est se rassembler pour partager un repas aussi, c'est prendre le temps de jaser, de jouer, d'échanger, rentrer avec l'enfant au repas. Puis comme vous l'avez dit, ben il y a aussi une foule d'aspects quant à la motricité fine ou plus globale qui rentre en ligne de compte au moment du repas. Puis ça, ben il faut y accorder quand même un petit peu d'importance.
Ouais. Les besoins nutritionnels du petit bébé sont pas les mêmes que les nôtres. Entre autres, ils ont besoin plus de gras. Pourquoi ça?
Parce que la grande différence entre les bébés et les adultes, c'est qu'ils sont en pleine croissance. Ça, évidemment, on le sait. Et la croissance, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Le bébé, évidemment, il y a un petit corps, il y a un petit estomac aussi. Donc, les aliments qu'on lui fournit doivent être concentrés. Concentrés en énergie, concentrés en calories. Et ce qui contient le plus de calories dans les aliments, bien, c'est les gras. Donc, il ne faut pas négliger ça. Quand les bébés naissent, ils ont besoin d'à peu près 50 % de leurs calories qui viennent des gras. Et sans comparaison aux adultes, nous, c'est à peu près 30 %. Donc, c'est vraiment des besoins très concentrés qu'ils ont. Et pour ça, bien, il faut leur fournir des aliments qui fournissent des gras, mais pas juste des gras, n'importe quel gras. Il faut que ce soit des aliments nourrissants, évidemment.
Donc, on évite fromage, yogourt allégé, c'est pas pour eux.
Les aliments allégés ne sont jamais pour les bébés. C'est vivement les versions régulières pour eux.
Ouais. Aussi, j'entends souvent des parents se poser la question, c'est quoi la quantité que je dois donner à mon enfant? Parfois, l'assiette est trop grosse, donc on se bat avec lui pour qu'il finisse l'assiette. Parfois, notre enfant a faim après le repas. Comment on peut évaluer ça?
La faim, en fait, la quantité que le bébé ou que l'enfant va manger, c'est lui qui le décide. Ça, c'est vraiment la règle de base. Comme parent, ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est commencer par y mettre des petites quantités dans son assiette, en ajouter aux besoins si on voit qu'il a encore faim, jamais, au grand jamais, le forcer à manger, parce que c'est lui qui est en contact avec son estomac, avec son ventre, c'est lui qui sait s'il y a encore de la place. Et les bébés naissent avec la faculté vraiment innée à gérer la quantité d'aliments qu'ils mangent. Un bébé qui est allaité, on le force pas à boire plus, on le restreint pas non plus, et cette aptitude-là vraiment à réguler les apports alimentaires en fonction de ses besoins. Les bébés, les enfants les gardent au cours de la petite enfance et même plus tard, si on ne fait pas d'interférence, si on ne les force pas à manger, les bébés continuent à savoir s'écouter. Donc, c'est vraiment un comportement, ça, à appliquer dans notre vie de tous les jours avec notre enfant.
Stéphanie, il y a quelques années, on entendait dire, il faut commencer par tel aliment pour après introduire l'autre. Là, ça ne marche plus, ces calendriers ou ces façons de faire, là, je pense.
Le calendrier qui était plus strict il y a quelques années, effectivement, il est mis de côté. Cela dit, il y a quand même quelques grandes recommandations qui restent. Les premiers aliments à introduire, ce sont des aliments qui sont riches en fer, parce qu'on sait maintenant que vers 6 mois, le bébé a des réserves pas mal affaiblies en fer, donc les aliments qui en contiennent s'appressent. Les aliments, donc je pense entre autres aux céréales enrichies pour bébé, mais aussi le groupe des viandes, poulet, poisson, tofu, légumineuses, œufs, qui contiennent aussi du fer. Et donc, il faut introduire dès les premiers jours, les premières semaines de l'alimentation solide. Puis ensuite de ça, c'est là où il y a un petit peu plus de flexibilité dans calendrier. Si on veut offrir un légume 2 jours plus tard, un fruit 2 jours plus tard, des œufs ou 2 jours plus tard, du poulet, là, à ce moment-là, c'est vraiment, on a plus de latitude qu'on en avait parce qu'on sait qu'à partir de l'âge de 6 mois, le bébé peut digérer à peu près n'importe quel aliment. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on cuisine un repas pour nous, pour les parents, ben on peut soutirer de ça un aliment qu'on va réduire en purée ou même en petits morceaux mou qu'on va offrir au bébé, puis ça va faire son repas à lui aussi.
Oui, ça, vous le dites, c'est important de varier les textures, parfois de laisser peut-être un petit peu plus, des morceaux un petit peu plus gros, parfois un petit peu plus fins, puis de jouer avec ça. Ça développe aussi le goût de notre enfant.
Oui, parce qu'il ne faut pas rester au même stade de texture trop longtemps parce que l'enfant va stagner si on fait ça. Si on offre des purées lisses, des semaines et des semaines, l'enfant va devenir un peu paresseux. Là, on ne se le cachera pas avec les textures. Si c'est juste des purées lisses à 6 mois, 7 mois, 8 mois, ben il va être confortable avec ça. Donc, il faut un petit peu le mettre au défi. Peut-être pas le mettre au défi, mais vraiment favoriser son développement en lui offrant, en variant les textures, en mettant un petit peu plus de mottons dans certaines purées quand il commence à vieillir, lui offrir des petits morceaux pour lui permettre d'évoluer et devenir un mangeur normal.
Un mangeur qui s'amuse, je dirais. Voilà. Stéphanie Côté, ça a été beaucoup trop vite. Bébé 21 jours de menu, ça se trouve un peu partout maintenant, publié chez Groupe Modus. Merci, toujours un plaisir de vous.